Lorsqu'Emma arriva devant l'agence de location, la nuit était tombée. Elle fit la queue pendant 20 minutes dans une salle mal chauffée avant d'être reçue par un employé tellement exécrable et arrogant qu'elle faillit renoncer à son projet. Elle prit finalement le premier véhicule qu'on lui présenta, un SUV General Motors, couleur orange sanguine. Elle régla avec sa carte de crédit, quitta Manhattan par le Holland Tunnel et prit la route vers le sud. Emma détestait conduire de nuit, a fortiori sur une route qu'elle ne connaissait pas, mais le trajet de New York à Atlantic City était bien balisé. Pour l'essentiel, il consistait à suivre la Garden State Parkway, la voie autoroutière qui traversait le New Jersey par la côte. Pendant tout le voyage, elle s'efforça de ne pas ressasser ses peurs. Elle alluma la radio sur une station musicale et essaya de chantonner pour faire le vide dans sa tête. Mais trop d'idées s'y bousculaient. De peur d'arriver en retard, elle jetait de fréquents coups d'œil à l'horloge du tableau de bord. Alors qu'elle se crut arrivée, son angoisse monta d'un cran lorsqu'elle se retrouva coincée dans un embouteillage. Un carambolage impliquant plusieurs véhicules empêchait d'accéder à l'expressway qui longeait la côte. Elle attendit un long moment avant que la bretelle d'autoroute se libère et qu'elle puisse enfin accéder à la capitale du jeu de la côte Est, une ville qu'elle avait toujours tenue pour un repoussoir et dans laquelle elle n'avait jamais mis les pieds. Nouveau coup d'œil à l'horloge. 20h25. Elle débarqua sur Atlantic Avenue, qui permettait d'accéder au fameux Boardwalk, l'interminable promenade de bord de mer sur laquelle se succédaient la plupart des grands casinos qui faisaient la renommée de la station balnéaire. En ce début de soirée, la ville bourdonnait d'activité. L'artère principale où se concentraient les principaux hôtels, les restaurants, les salles de spectacle étaient livrées aux bus de touristes, aux limousines bling-bling et aux pousse-pousse ridicules. 20h29. En marquant un arrêt à un feu tricolore, Emma en profita pour se repérer au milieu de ces cascades de lumière et de néons. Au centre du boardwalk, elle reconnut la silhouette singulière du New Blenheim, le dernier né des casinos de la ville, dont elle avait vu des photos dans un magazine. Construit au milieu des années 2000, le complexe avait été conçu comme une marina et s'articulait autour de quatre pyramides ondulées évoquant de grandes vagues bleues qui s'élevaient à 60 mètres au-dessus de la mer. La nuit, les quatre bâtiments et leurs 2000 chambres brillaient d'une lumière turquoise et ressemblaient à une escadrille de voiliers intergalactiques prêts à donner l'assaut contre un ennemi invisible. 20h34. Emma doubla un taxi et se faufila jusqu'à l'entrée du parking du New Blenheim qui plongeait sur 6 étages. Elle gara la voiture de location et courut jusqu'aux nombreux ascenseurs qui desservaient le hall de l'hôtel. Là, elle prit le temps de chercher sur un plan interactif la salle des machines à sous. 20h39. Le complexe hôtelier était colossal, comptant une dizaine de restaurants, un spa, une piscine, deux boîtes de nuit, trois bars et une surface consacrée au jeu qui s'étendait sur plus de 10 000 mètres carrés. Elle avait localisé l'espace réservé aux machines à sous et mémorisé le trajet pour y parvenir. Elle n'avait pas droit à l'erreur. 20h40. Elle traversa le hall en courant, changea deux fois d'ascenseur, emprunta le gigantesque tunnel de verre qui reliait entre elles les quatre pyramides. Un dernier escalator pour descendre d'un étage, un vigile à qui elle présenta sa carte d'identité et elle arriva dans le repère des machines à sous. 20h41. L'enfer du jeu se présentait sous la forme d'un hall immense au plafond bas. Privé de fenêtres, le lieu était déprimant malgré les teintes manguillerées qui émanaient des machines. Emma changea $50 en jetons et parcourut à pas rapide le tourbillon sonore et lumineux de l'armée de bandits manchots. Jackpot Candy, Cléopatra, Three Kings, White Orchid, Dangerous Beauty, des centaines de machines formant un réseau tentaculaire actif 24 heures sur 24. Elle se noya dans la foule bruyante qui se déplaçait entre les attractions, jeunes types qui jouaient les flambeurs, expéditions familiales pour faire sauter la banque, joueurs addicts au visage de zombies qui dilapidaient méthodiquement leur fortune, essaims de trentenaires venus enterrer la vie de garçons de leurs copains, vieillards, décatis et édentés, retrouvant les saveurs des fêtes foraines de leur enfance. 20h43. Emma n'avait jamais compris que l'on puisse venir se perdre dans ce genre d'endroit. Quelques gouttes de sueur perlèrent sur son front et un léger vertige la fit vaciller. Malgré son étendue, l'espace donnait l'impression d'être confiné et hors du temps. Au bord de la nausée, Elle s'appuya un court moment pour reprendre sa respiration. C'est alors qu'elle aperçut un chapeau de paille au milieu des casquettes. Elle se rapprocha du groupe de retraités suédois. Aucun doute, c'était bien elle, Lina Nordqvist, la retraitée centenaire avec son sweatshirt I Love Stockholm. Sa main droite tenait un grand pot de jetons serré contre sa poitrine. Sa main gauche était agrippée à l'armature métallique d'un déambulateur à roulettes. À la vitesse d'une limace, elle se dirigeait vers une rangée de machines au bout de laquelle se trouvait la Little Mermaid. Oubliant les bonnes manières, Emma lui grilla la politesse pour s'installer la première devant l'écran.
« Du geek inimig, jag är en gammal dam, till bax till skolan med dig soit du kan lera dig lite ous. »
s'énerva la vieille, très mécontente. 20h44. « Cause toujours, tu m'intéresses », pensa Emma en s'excusant mollement. Elle attendit que la Suédoise ait tourné les talons pour insérer son premier jeton dans la fente de la machine. 20h45. « Cette histoire n'a aucun sens », se répéta-t-elle en appuyant sur le bouton de l'écran tactile pour lancer le cycle de combinaison de l'appareil. « Cette fois, les jeux sont faits », songea-t-elle alors que les 5 rouleaux se mettaient à tourner à pleine vitesse sur eux-mêmes. Boston, 2011. 22h.
Fuck, fuck et triple fuck!
Cria April en sortant du four un moule brûlant. Surprise par la chaleur, elle laissa tomber le récipient en verre qui se brisa sur le sol avec fracas. Assoupi sur le canapé, Matthew sursauta et se leva d'un bond. Après avoir couché sa fille, il s'était écroulé de fatigue devant une énième diffusion de It's a Wonderful Life, le classique de Noël de Capra.
« Tu devrais faire encore plus de bruit, » suggéra-t-il. « Je ne suis pas certain qu'Emily se soit réveillée. »«
Oh, ça va. Mon beau pain d'épices est tout brûlé, » se lamenta April. « Pour une fois que j'essaie de me mettre au fourneau. »
Matthew se frotta les paupières. Il avait froid, se sentait fiévreux et angoissé. Il avait passé l'après-midi à envoyer des messages à Emma, accumulant des preuves pour la convaincre que ce qu'il vivait était bien réel, mais tous ses courriers étaient restés sans réponse. Il quitta le salon pour la cuisine, où il aida April à réparer ses bêtises, puis il vérifia ses mails pour la 500e fois de la journée. Cette fois, sa boîte aux lettres clignotait. Alors qu'il n'y croyait plus, Emma lui faisait signe par quelques lignes lapidaires. De Emma Lovenstein à Matthew Shapiro. Objet, jackpot. Matthew, vous qui aimez tant les journaux, jetez donc un nouveau coup d'œil à l'article du New York Times. Emma. À quoi faisait-elle allusion? Pourquoi voulait-elle qu'il consulte encore cet article? Se pourrait-il que... Il sentit monter l'adrénaline, approcha un tabouret et s'assit devant l'ordinateur posé sur le plan de travail de la cuisine. Il avait besoin d'avoir les idées claires. Tout en se connectant aux archives du New York Times, il glissa une capsule de café dans la machine et se prépara un breuvage serré. Il retrouva facilement l'édition du lundi 23 décembre 2010, en téléchargea une version PDF et à l'aide du pavé tactile, feuilleta les pages du journal numérique à la recherche de l'article. D'abord, il ne vit rien. Il se souvenait pourtant parfaitement de cette photo surréaliste de la retraitée suédoise, appuyée sur son déambulateur, posant fièrement devant les flamboyantes machines à sous. Mais le cliché avait disparu. Il s'imposa une nouvelle lecture, et mit finalement la main sur un article beaucoup plus modeste, sans illustration, qui évoquait l'histoire du jackpot d'Atlantic City. Une jeune New-Yorkaise gagne 5 millions de dollars au casino en n'ayant misé qu'un seul jeton. Une jeune femme, ayant souhaité garder l'anonymat, a remporté samedi soir plus de 5 millions de dollars, 5 023 466 exactement, sur une machine à sous Little Mermaid du casino de l'hôtel New Blenheim à Atlantic City. Une somme rondelette gagnée en n'ayant misé que 2 dollars. La gagnante a raconté qu'elle venait juste d'arriver dans la salle de jeu lorsqu'elle a inséré le jeton dans la fente du bandit manchot vers 20h45. Applaudie par tous les joueurs du New Blenheim, elle a confié qu'elle allait utiliser une partie de cet argent pour peut-être acheter une nouvelle voiture, mais certainement pas un nouvel ordinateur. Stupéfait, il lut l'article une deuxième fois en mesurant toutes les implications. Il avait la gorge sèche et le front tapissé de sueur. Il essaya de boire une gorgée de café, mais il eut de la difficulté à déglutir. Il allait se lever de son siège lorsqu'un nouveau message se matérialisa sur l'écran. De Emma Lovenstein à Matthew Shapiro. Alors, Matthew, que fait-on à présent ? Emma. La question se répercuta en lui comme un écho. Que faire à présent ? Il n'en savait strictement rien, mais au moins n'était-il plus le seul à se le demander. Soudain, une prise de conscience bien plus forte lui remua le cœur. Au moment où Emma lui envoyait ce courrier, Kate était encore vivante.